Bonjour, vous êtes à l'émission Parole au présent, au microphone Claude Julien. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Alors, ça serait bien Francine, avant qu'on entende le texte, que vous nous en fassiez une courte présentation.
Oui, c'est une lecture qui nous situe au moment où Jésus quitte la Galilée pour Jérusalem. C'est donc le voyage après une longue période de mission en Galilée où Jésus a enseigné, guéri les gens. Les gens sont assez familiers, je crois, avec cette division en deux grandes périodes du ministère de Jésus. Un grand bout en Galilée, ensuite départ pour Jérusalem vers la Passion et la mort et bien sûr la résurrection. Cette division-là, elle est commune à Matthieu, à Marc et à Luc. Sauf que chez Matthieu et Marc, le voyage est assez court. Il n'est pas important, le voyage. L'important, c'est la Galilée et ensuite Jérusalem. Tandis que Luc, lui, nous présente une très longue section originale pour ce voyage, qui commence avec le texte d'aujourd'hui au chapitre 9, verset 51. Et Jésus n'arrivera à Jérusalem qu'au chapitre 19, verset 37. Donc, vous voyez presque une dizaine de chapitres, finalement, pour le voyage, dans lequel Luc regroupe plusieurs récits qui lui sont propres, hein, des récits qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Et j'ai compté 25 fois où Luc parle de faire route, toujours le même verbe en grec.
C'est beaucoup, 20, hein?
C'est beaucoup. Mmh. Et là-dessus, il y a 12 fois au moins pour Jésus et pour les disciples. Et c'est un verbe qui revient aussi dans les paraboles ou dans les enseignements sur la vie des disciples. Pourquoi j'insiste sur ce verbe? C'est parce que ce mot grec pour eumai, bon, c'est pas le mot grec qui compte, mais il est traduit de toutes sortes de manières pertinentes, mais qui font qu'on ne voit plus la répétition. Alors, ce verbe peut vouloir dire voyager, marcher, aller vers, faire route. Tous les sens concrets, donc français, qu'on trouve à l'idée de marcher, d'avancer, progresser. Mais aussi les sens figurés que l'on peut trouver en français à l'idée du chemin. Par exemple, prendre le chemin de, comme on va dire, de quelqu'un qui prend le chemin du succès ou qui prend le chemin de la débauche, peut-être. Ou encore, on va dire, de quelqu'un qui suit son chemin, c'est-à-dire qui maintient son cap, il se dirige vers un but. On voit qu'il ne s'agit pas de la marche physique, hein, mais du cheminement, de la marche symbolique. Alors, Luc utilise comme ça le chemin physique, le voyage concret, comme l'image du chemin symbolique et réel en même temps sur lequel Jésus choisit de s'engager. Ce sont les choix de Jésus qui sont son chemin. Et en même temps, il va nous proposer, tout au long de ce voyage, une réflexion sur le chemin du disciple, c'est-à-dire quel est le cheminement de foi dans lequel on s'engage, comme par exemple nos trois candidats disciples du récit d'aujourd'hui. Alors, je préviens les gens que dans le texte que vous allez nous lire, je me suis permis de faire quelques petits changements. Là où on a ce fameux verbe « faire route » ou « prendre le chemin », ce sera toujours traduit avec ce mot « chemin » pour que les gens puissent voir la répétition. Et vous allez peut-être être surpris d'entendre aussi le mot « visage » ou « face » à des endroits où, normalement, nous ne l'attendons pas. C'est parce qu'il est bien ainsi dans le texte et j'aurai l'occasion d'y revenir aussi.
Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il rendit ferme son visage pour prendre le chemin de Jérusalem. Il envoya des messagers devant sa face. Ceux-ci se mirent en chemin et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce que sa face prenait le chemin de Jérusalem. Devant ce refus, les disciples, Jacques et Jean, intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? » Mais Jésus se retourna et les interpella sévèrement, et ils prirent le chemin pour un autre village. Tandis qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le règne de Dieu. » Francine Robert, nous sommes en présence d'une catéchèse, si je comprends bien, une catéchèse sur le chemin que Jésus choisit, et sans doute un chemin sur lequel il nous invite à le suivre.
Oui, certainement. Et dès le début, le lecteur que nous sommes est interpellé à l'attention, parce qu'il y a une certaine solennité hein, dans la toute première phrase qui annonce le voyage. Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, hein, c'est une phrase assez solennelle, plus encore lorsqu'on la lit textuellement, c'est comme allaient s'accomplir les jours de son enlèvement. Alors, c'est pas ce jour-ci ou un de ces jours-là. Comme allaient s'accomplir les jours de son enlèvement, ça suggère un projet qui est en marche depuis un temps et voici qu'une étape importante du projet vient de commencer. L'accomplissement, c'est toujours lié à la promesse et au projet de salut de Dieu. Alors, au fond, Jésus est présenté comme concentré sur la réalisation de son programme et bien décidé à opérer cette réalisation-là. On a un certain parallèle ici avec le récit de la Transfiguration, qui dans l'Évangile de Luc est tout près de notre récit. Les deux sont séparés par un seul autre récit. Pour nous, dans la liturgie, c'est plus loin parce que la Transfiguration était au carême. Mais les gens se rappelleront peut-être Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Même vocabulaire, s'accomplir et partir à Jérusalem. Le mot départ qu'on avait dans le récit de la Transfiguration, c'était l'Exode. Hein, ils parlent ensemble de son Exode. L'Exode, ça nous fait penser à Moïse, bien sûr, la sortie d'Égypte. Dans le récit d'aujourd'hui, ce même départ, il est appelé son enlèvement qui approche. Le temps de son enlèvement approche. Et enlèvement, ça nous rapproche plutôt du prophète Élie. Hein, c'est le même mot qui est employé dans l'Ancien Testament, deuxième livre des Rois, chapitre 2, lorsque Élie est enlevé au ciel. C'est pas nouveau que Luc présente Jésus de manière à faire des rapprochements avec le prophète Élie. Hein. Ici, évidemment, je fais allusion à l'ascension, enfin à ce que nous appelons l'ascension, mais que Luc appelle l'enlèvement de Jésus. Autrement dit, c'est comme si Luc nous annonce déjà la dernière image au bout de ce voyage que Jésus entreprend maintenant. C'est une image glorifiante, c'est une finale glorifiante. C'est l'image de l'enlèvement de Jésus au ciel.
Alors que quand on pense à ce chemin vers Jérusalem, en fait, ce qui nous vient à l'esprit, c'est plus la passion et la mort de Jésus, finalement.
Oui, vous avez bien raison. C'est sous l'influence du récit de la Transfiguration que j'ai pensé à l'image plus glorifiante de l'Ascension. Mais c'est certain que ce voyage-là, Jésus l'entreprend, sachant que ce qui est au bout, c'est d'abord la mort précédée de la passion. Il l'entreprend, ce voyage, comme le serviteur souffrant dont parle le prophète Isaïe. Hein. Et c'est le sens de cette expression qui nous semble tellement étrange. Jésus a rendu son visage ferme. C'est comme ça que vous nous l'avez lu. Traduit plus textuellement encore, ça pourrait être « Jésus a durci sa face ». Ce qui est habituellement, non pas traduit, mais transposé dans les textes, comme la Bible de Jérusalem ou la liturgie, Jésus a pris résolument la route, ça dit sa détermination. Mais ici, c'est bien le mot « visage » qu'on a, ou le mot « face », c'est le même mot en grec, et ça renvoie directement au prophète Isaïe, au chapitre 50, et on a là un ensemble de textes très longs, sur le serviteur de Dieu dont on s'attendrait à ce qu'il ait beaucoup de succès et qui, au contraire, est malmené et qui dit lui-même « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, je n'ai pas caché ma face aux outrages et aux crachats, parce que le Seigneur Dieu me vient en aide. J'ai rendu mon visage dur comme la pierre, je sais que je ne serai pas confondu. » Donc, on voit que c'est bien ce texte-là que Luc a en tête.
Qui est un des poèmes qu'on appelle communément oui. Un des quatre poèmes du serviteur souffrant.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. C'est ça, et qui ont beaucoup inspiré les premiers chrétiens, entre autres pour les récits de la Passion. Alors, c'est sûr que Luc a ça en tête. C'est comme narrateur qu'il nous dit « Jésus a durci son visage ». C'est pour nous dire que Jésus, comme ce serviteur, est persuadé que Dieu est avec lui, et il se prépare au pire, sachant que Dieu l'aidera à traverser ce qui l'attend. En même temps, puisqu'il est question de visage ici, ça nous rappelle aussi la transfiguration. Parce que chez Luc, on avait sur la montagne que le visage de Jésus apparaît tout autre. C'est le visage qui est transfiguré. Un peu comme si, à la transfiguration, le visage de Jésus avait reflété la gloire de Dieu. À la manière dont Moïse, son visage brillait quand il est redescendu de la montagne, en rayonnait. C'est un peu la même chose. Alors, le même visage, tantôt glorifié sur la montagne, ici, a une vocation inverse, je dirais. Le visage ici, durci comme la pierre, rappelle l'abaissement vers lequel Jésus est décidé à marcher. Un visage préparé à recevoir le rejet, les gifles, le crachat, tout ça. Donc, on devrait se dire que ce visage-là aussi, abaissé, tourné vers la souffrance, reflète la gloire de Dieu. Si on élargit notre compréhension de la gloire de Dieu, non pas à la seule idée de triomphe, mais à ce choix de Dieu de nous laisser liberté totale de l'accueillir ou de le rejeter. Ça aussi, c'est la gloire de Dieu. Alors, Jésus, dans ses dispositions, prend la route, se met en chemin, ce fameux verbe dont je vous ai parlé au tout début, et ce verbe qui concernera aussi la vie des disciples. Ce verbe qu'on retrouve, par exemple, à la fin de la parabole du bon samaritain, dont nous parlerons dans 2 ou 3 semaines, je pense, où Jésus dit au scribe, après avoir raconté la parabole, « Va, toi aussi, et fais de même », c'est « fais route » ou « prends ce même chemin ». C'est ce même verbe, là. C'est pas un petit « va », c'est « adopte ce chemin-là de vie ». Vie comme le samaritain a agi envers le blessé. Donc, les disciples sont concernés par ce voyage. Et on voit de toute manière, dès les débuts du voyage, les disciples sont directement impliqués dans la mission de Jésus. Il envoie des messagers devant sa face. Ça vous rappelle
Ça rappelle pour Jean-Baptiste.
Pour Jean-Baptiste, hein? C'est ça. Toi, petit enfant.
Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Ben oui, tu marcheras devant la face du Seigneur.
C'est pour ça, préparer ses voies. Alors ici, au fond, les disciples sont décrits ou insérés dans la même fonction que celle de Jean le Baptiste, marcher devant la face du Seigneur pour annoncer qu'il vient, finalement. La face du Seigneur, c'est son identité profonde. Hein? Donc, ils vont proclamer qui il est et non pas juste le fait qu'il vient. Ça va être la même chose dans le texte de la semaine prochaine, celui dont vous nous ferez le commentaire. Les 72 seront envoyés aussi pour proclamer le règne de Dieu. Alors, les disciples sont associés à la mission de Jésus.
Bon, et les premiers pas du voyage, on peut dire que dès les premiers pas du voyage, la passion est suggérée, hein? Avec ce refus du village de Samaritains, le refus de recevoir Jésus, et évidemment, et aussi la réaction qui va s'ensuivre chez les deux témoins de la transfiguration, là, qui comprendront pas, puis qui seront bon. Alors, il y a un refus, là.
Il y a un refus. C'est clair, Jésus a envoyé des émissaires et le village les ont retournés en disant « Non, on veut pas qu'ils viennent chez nous ». Bon, c'est un refus sans beaucoup de conséquences, mais ça annonce déjà le fait qu'on peut refuser cet envoyé de Dieu et qu'il va consentir à ce refus. Et qu'est-ce que c'est que la passion, la condamnation et la mise à mort, sinon que le refus de cet envoyé quand il est poussé à l'extrême, c'est-à-dire jusqu'au point où on veut s'en débarrasser. Alors, on pourrait dire que ce village déjà préfigure la fin du voyage. Et bien sûr, comme vous nous le rappeliez, nos deux disciples, c'est Jacques et Jean, hein, ils sont connus déjà. C'est même eux qui étaient avec Pierre sur la montagne de la Transfiguration. C'est peut-être ça leur problème. Leur réaction, c'est d'appeler le feu du ciel pour détruire le village. Hein. comme si, après
c'est
avoir
assez
vu...
fanatique, hein?
C'est un peu, hein, ouais. fanatiste religieux, ouais. là, c'est ouais. un peu ça. Mm-hmm. Mais on pourrait dire, ouais, mais on l'a vu, nous, glorifié, là, on va toujours bien pas le laisser aller comme ça, se faire bafouer, insulter, rejeter, ça marche pas. C'est peut-être dangereux, finalement, les expériences de transfiguration du point de vue d'un disciple. Au fond, ils trouvent inacceptable que le Messie soit rejeté. Et leur réaction, cette réaction d'appeler le feu du ciel, on ne la trouve que dans Luc, elle doit nous rendre conscients que le choix de Jésus est, par voie de conséquence, ce qu'il révèle du choix de Dieu, c'est-à-dire respecter totalement notre liberté à l'accueillir et donc à le refuser, c'est pas un choix si évident. Du point de vue de Dieu. Et on est trop habitué à cette idée-là. Je pense que la réaction de Jacques et Jean nous rappelle qu'elle ne va pas de soi. Que comme disciple, membre d'un groupe religieux particulièrement, est toujours présent, hein, d'une certaine manière, le désir de la puissance de Dieu pour opérer en notre faveur. Dieu combat pour nous, la force de Dieu est de notre côté, et même ici, comme on le voit, pour opérer des représailles violentes. Ce qui, d'ailleurs, il faut pas trop les blâmer, ils ne sont pas les premiers, ça les renvoie tout à fait à l'attitude du prophète Élie. Lui aussi, c'était sa manie de faire tomber le feu du ciel sur ses ennemis, il l'a fait. Ça vous fait sourire que je dise sa manie, mais c'est qu'il l'a fait, si ma mémoire est bonne, trois fois.
Alors les deux amis de Jésus qui ont associé Jésus à Élie, tout ça, là, c'était facile de ouais. dire continue donc ce que le prophète a fait.
Bien sûr, hein? Puisque Jésus est déjà présenté comme ressemblant à Élie. Alors, ici, on a un endroit où Jésus se démarque d'Élie, puisqu'il les réprimande sévèrement. La traduction liturgique est plus faible un peu ici, mais le verbe qui est là est fort. C'est le même verbe que quand Jésus veut empêcher les esprits mauvais de parler. Donc, ce qu'ils disent est vraiment à côté complètement. En fait, on se rappellera, Jésus monte à Jérusalem, il est prêt à mourir. Alors, c'est pas pour faire mourir les autres, puisque lui-même est prêt à mourir. Ça montre que les disciples, Jacques et Jean, les autres et nous, on a toujours besoin on a un peu de chemin de conversion à faire. Hein? Mais bon, ce qu'il y a de bon avec le chemin, c'est que ça nous donne un peu de temps pour progresser aussi. Et que cette conversion-là, c'est toujours changer l'image qu'on a de Dieu, du Messie, et changer finalement aussi l'image qu'on a de nous comme groupe, hein, comme Église, et comme nos moyens aussi comme peuple de Dieu.
Bien, et dans la suite du récit, hein, on a une catéchèse sur l'Église comme groupe de disciples. Hein?
Oui, c'est ça. On a une catéchèse sur trois candidats disciples. Et ouais. C'est sûr que le regroupement de ces trois petits dialogues nous donne une idée, une réflexion sur de quoi est composé ce groupe.
Alors, je rappelle rapidement, hein, tandis qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur. » En fait, c'est le verbe « suivre », là, c'est classique là, pour les
oui,
disciples.
Oui, c'est classique aussi ouais. d'ailleurs dans Matthieu, dans Marc. C'est le verbe en grec, si vous me permettez, akolutheo. Je le dis, le verbe grec, parce qu'il ressemble tout à
oui,
fait...
acolyte, acolyte, akolutheo.
Notre mot oui. français, acolyte, un acolyte, c'est quelqu'un qui est avec un autre, qui se met
qui
dans son groupe.
Qui l'accompagne.
Qui l'accompagne, qui le supporte. Ouais. Donc, ça vient directement du mot grec akolutheo, qui lui est un verbe que l'on traduit habituellement par « suivre ». Mais en fait, c'est un verbe qui est composé de la particule « a » et du nom « kéleutos », « akolutheos »,« kéleutos oui. ». Et « kéleutos », ça veut dire aussi « route chemin ». Vous allez dire que j'ai une obsession aujourd'hui de parler de « chemin ».
Ah ben, c'est le terme.
Mais c'est voilà, j'en ai parlé avec le verbe « poréumai » qui revient tout le temps, « se mettre en route »,« faire route »,« se mettre en chemin ». On retrouve cette même idée du chemin, ce même mot du chemin inclus dans le verbe « suivre ». C'est donc « faire route avec ». Ou prendre le chemin que quelqu'un nous indique, a way of life, je dirais, si je peux me permettre l'anglais, c'est une manière de vivre, c'est un chemin de vie. Devenir un acolyte de quelqu'un, c'est se mettre à son école, adopter son chemin de vie. Alors les disciples, ce sont, dans notre récit ici, ils sont bien définis comme ceux et celles qui prennent le même chemin que Jésus. Je dis « et celles », hein.
Oui, oui, car il y avait Marie Magdala, Suzanne et plusieurs autres.
Oui, si et il on... faut pas oublier plusieurs autres.
Et plusieurs autres.
Oui, qui étaient mentionnés il y a deux semaines, je crois, à la fin du récit de la pécheresse chez Simon le Pharisien. Donc, on a nos trois candidats disciples, et pour chacun des trois cas, un dialogue bref qui nous oriente, qui oriente toute la suite du commentaire sur les conditions de la suivance de Jésus, les conséquences de la suivance de Jésus. Je vais commencer par le deuxième cas, parce qu'il nous est plus familier pour nous comme récit d'appel. On reconnaît bien là les récits d'appel des premiers disciples au bord du lac, ou encore de Lévi le publicain. Jésus passe, voit quelqu'un, il dit « suis-moi ». Il y a une sorte de radicalité dans la réponse. Il ramène les barques à terre, il laisse tout, il le suit. Donc, c'est très, très concentré. Il n'y a pas d'espace là, pour l'hésitation. Ici, notre deuxième candidat, ça ressemble un tout petit peu à ça pour le début, puisque c'est Jésus qui l'appelle. Il lui dit « suis-moi ». Mais on a une réaction plus réaliste, plus vraisemblable que dans nos récits classiques d'appel. L'homme, il veut d'abord enterrer son père.
Ce qui est tout à fait légitime.
Bien sûr. Mm-hmm. Et c'est même un devoir filial majeur que lui fait la Torah, la loi de Moïse. Et Jésus, c'est dur, hein, cette phrase.
Oui, il lui répond, laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le règne de Dieu. Hein, c'est une phrase qui sonne dure à nos oreilles.
Oui, qui fait souvent réagir mes étudiants aussi. C'est pas pour l'atténuer, mais en lui donnant son sens, peut-être ça aide aussi à l'accepter, je dirais. Ça souligne, c'est certain, la radicalité qu'implique la décision de prendre le chemin de Jésus. Hein. Et plus précisément, ça implique une rupture avec la loi, avec une certaine tradition, et avec l'ordre familial aussi, qui est touché de près là, par le devoir filial d'enterrer son père. Je rappellerai ici ce qu'on disait à propos de la naissance de Jean le Baptiste dans l'Évangile de Luc. Maintenant, il s'agit de la mort d'un père, mais ces impératifs de la loi familiale qui étaient vraiment coulés dans le béton, je dirais, encore plus dans les sociétés antiques que dans la nôtre. Et c'est comme si la réponse de Jésus ici, comme dans l'histoire de la naissance de Jean, implique une rupture avec la tradition. N'enterre pas ton père, finalement, c'est, attention, il y a une rupture à vivre avec l'ensemble des obligations et des contraintes que ça représente, et que représente spécifiquement l'ordre familial. Il y a une nouveauté ici, du règne de Dieu, qui te tourne vers autre chose. Et donc, si toi, tu vas annoncer le règne de Dieu, ben ça implique que tu laisses d'abord cette nouveauté du règne entrer dans ta propre vie. D'où cette image, qui est une image, mais une image forte de rupture. C'est une phrase imagée, j'insiste. Ça joue aussi sur le sens symbolique de la mort. Pensez au père du fils prodigue qui dit « mon fils était mort, il est revenu à la vie, il ne s'agit pas de mort physique ». Je pense bien que la phrase joue sur ce registre symbolique. Hein. C'est comme si Jésus disait « écoute, tu viens de me dire que tu choisis un chemin de vie, alors tu ne retournes pas dans un chemin de mort ». Dans un chemin de mort qui serait la contrainte des règles de la loi du passé et non pas le fait que le père soit mort. On se comprend, c'est vraiment la mort au sens symbolique, pas... c'est pas un interdit de funérailles.
Ouais, on comprend.
Ça va?
C'est ça, ouais.
OK. Cet homme ou ce quelqu'un, parce qu'en fait le texte, vous me faisiez remarquer, ne précise pas, c'est quelqu'un, demande un délai pour un devoir familial. On a la même chose, la même demande de délai pour le troisième candidat disciple, hein, qui dit à Jésus, laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Bon, c'est un moins gros impératif, alors on s'attend à une réponse au moins aussi radicale, et on l'a. Jésus dit, finalement, celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder en arrière. Alors, ça veut dire qu'il faut partir en avant et ne pas entretenir de nostalgie pour le passé. Le travail du règne de Dieu est un must, est une priorité.
Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal, à la technique Alain Primeau. Ici Claude Julien qui vous souhaite un bon dimanche et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.